Chapitre 28. Il y a une chose qu'on entend souvent dire dans tout ça aussi, au sujet de Frank Toomey. C'est qu'il n'est pas vraiment difficile à trouver parce que quel individu sain d'esprit aurait l'idée de partir à sa recherche? Mais à présent que tout le monde se tient sur le qui-vive pour tenter de repérer Mary Pat, il est hors de question pour elle d'aller se balader dans l'un ou l'autre des endroits connus où Frank Toomey a l'habitude de traîner ou de se consacrer à ses affaires. Et elle imagine évidemment que, s'il suppose qu'elle en a après lui, aller faire un tour dans la rue où il a élu domicile est tout autant hors de question. Mais la femme de Frank, Agnès, une femme mince avec un visage et des épaules qui font penser à un oiseau, est particulièrement active au sein de Restore Our Alienated Rights, une organisation sœur de SWAB. ROAR a été créée par Louise Day Hicks, membre du comité de l'enseignement public de Boston, afin de protéger les droits bafoués des citoyens blancs. L'unique raison pour laquelle SWAB et ROAR ne sont pas encore fondus en une seule et même organisation est que Carol Fitzpatrick, la dirigeante de SWAB, et Louise Day Hicks, la dirigeante de ROAR, se détestent. Et ce, depuis une dispute qui remonte à l'époque de la maternelle. À en croire la rumeur, cette animosité de toute une vie aurait pour origine un crayon de couleur cassé. Mais la chose n'a jamais été confirmée. SWAB est en plein désarroi actuellement. De toute façon, le fait que Mary Pat ait cassé quelques dents et au moins un nez parmi ses membres n'y est pas pour rien. Et les dames du groupe ne semblent pas suffisamment en état de disputer le match, comme disait son grand-père, pour une manifestation. Mais cela fait un mois que ROAR travaille à l'organisation de son rassemblement. Et Agnès Toomey a fait appel à tous les sous-fifres de son mari au sein de la bande de Butler pour faire circuler l'information. Aussi, Agnès, qui a passé toute sa vie dans l'ombre de son redoutable mari, tient sa place au premier plan dans le meeting de ce soir. Et puisque l'équipe de Butler a passé d'innombrables heures à faire circuler l'information, il est possible, pas probable, remarquez, mais possible, que Frankie fasse une apparition pour soutenir la cause. Mary Pat se sert de l'argent du prix du sang que lui a donné Marty pour faire quelques courses au Filene's Basement. Elle prend une paire de grandes lunettes de soleil ovale qui lui rappellent celles de Jackie O. Elle ajoute une perruque noire et un foulard beige dans son chariot. Elle achète un tailleur pantalon en gabardine bleu pastel, un chemisier blanc et une paire de chaussures d'infirmière blanche. Elle s'offre du rouge à lèvres, du fard à joues, du fond de teint et des faux cils assortis au noir de la perruque. Et un nouveau sac à main pour son revolver. Après avoir tout acheté, elle emporte les différents articles avec elle dans la cabine d'essayage et se transforme. Elle est un peu surprise de constater que les chaussures d'infirmière lui font mal aux talons. L'idée en ce qui concerne les chaussures d'infirmière, à ce qu'elle a toujours entendu dire, c'est qu'elles sont confortables et qu'on n'a pas à attendre qu'elles se fassent. À part ça, sa virée shopping est un formidable succès. Elle se plante devant le miroir dans la cabine d'essayage pour dames du Filene's Basement et c'est une inconnue qui la regarde. C'est un peu déconcertant de voir la facilité avec laquelle elle a disparu. Elle enlève les lunettes et, bon, elle est bien là. Si quelqu'un s'approchait tout près, ce sont bien les yeux bleus de Mary Pat, sans aucun doute. Mais une fois les lunettes remises, elle doit examiner attentivement son profil pour reconnaître celle qu'elle est, et aussitôt l'oublier. Elle est une toute autre personne. L'année dernière, avant leur séparation, Ken Fenn et elle sont allés au cinéma, le Bug House, dans Broadway, et ils ont vu un western spaghetti, Mon nom est personne, avec Henry Fonda et Terence Hill. Voilà qui elle est à présent, tandis qu'elle se regarde dans le miroir. Personne. Un fantôme. Avec un flingue. En sortant du Filene's Basement, elle parcourt quelques rues à pied avant de tourner dans West Street pour se rendre à son rendez-vous au cabinet d'Anthony Chapstone, plus connu sous le nom de Tony Chap. Tony Chap avait été l'avocat de Dukie, et il l'avait traité avec considération. Jamais il ne lui avait facturé ne serait-ce qu'un simple trombone sans être en mesure de lui montrer les documents qu'il avait attachés avec. C'est Tony Chapp qui avait aidé Mary Pat pour que Duke soit officiellement déclaré mort afin qu'elle puisse se marier à l'église avec Ken. Et ainsi que Duke l'avait dit, ses tarifs étaient raisonnables et sans mauvaise surprise. En le voyant maintenant dans son petit bureau, une demi-douzaine d'années plus tard, elle est de nouveau frappée de constater qu'il ne s'est jamais départi de cette allure étrange et solitaire. Elle ne lui connaît pas de femme, pas de famille. Les seules photos encadrées dans son bureau sont celles de petits chiens et d'endroits où elle présume qu'il est allé, des paysages feuillus et montagneux. Comme toujours, il est impeccablement habillé, mais dans un style démodé depuis au moins une quinzaine d'années, veste de costume à revers étroit, des bretelles en dessous, un nœud papillon en soie. C'est un homme courtois, aux yeux bienveillants. Et cela fait bien longtemps qu'elle a cessé de se demander s'il est intègre. Mais une chose est sûre, il est inconnaissable. Elle ne connaît même pas son âge, entre 40 et 55 peut-être. Son visage est toujours aussi lisse et uni qu'une ampoule électrique. Il lui indique une chaise et lui présente ses condoléances pour Jules. Il lui confirme que tous les documents sont prêts et fait entrer sa secrétaire, la vieille Maggie Willock, qui est avec lui depuis le début de sa carrière, pour servir de témoin et certifier tous les actes. Une fois que c'est terminé, tous les documents signés et paraphés en triple exemplaire, Mary Pat prélève un peu d'argent du prix du sang pour elle-même et remet la sacoche à Tony Chapp. Elle aurait cru que laisser tout ce tas de fric allait lui donner à réfléchir. En vérité, elle se sent infiniment plus légère et plus propre, comme si elle venait de prendre un bain dans des fonds baptismaux. La manifestation contre la tyrannie démarre à 7 heures, tandis que le soleil commence à se coucher à l'extérieur du tribunal du comté de Suffolk, au début d'East Broadway, dans South Boston. Le tribunal est situé juste à l'est de l'endroit où West Broadway et East Broadway se rencontrent, et ce carrefour est déjà bloqué par la foule. Comme aucune circulation ne passe, les gens ont envahi la chaussée et le trottoir devant le tribunal, et les différents orateurs s'expriment depuis les marches du bâtiment officiel. La cinquième personne à prendre la parole, Agnès Toomey, une femme que peu de gens ont entendu parler plus haut qu'un murmure, n'a aucun problème pour trouver sa voix avec un mégaphone. C'est aller à l'encontre du plan de Dieu, dit-elle à la foule, que forcer un quartier, une culture, un lieu de fierté et d'honneur, à changer ses habitudes afin d'arranger ceux qui sont trop faibles ou trop paresseux pour se prendre en charge. Mary Pat, se déplaçant à la lisière de la foule, de l'autre côté de la rue, se surprend à se dire qu'une femme dont le mari gagne sa vie en tuant des gens pourrait éviter de mêler Dieu à son discours. La foule ne relève pas l'ironie. Ils avalent tout.
« S'ils veulent de meilleures écoles !»
crie Agnès dans son mégaphone.
« Qu'ils les construisent ! Personne ne les en empêche !»
Dans toute la rue, les gens klaxonnent.
« S'ils veulent une vie meilleure !»
poursuit Agnès.
« Qu'ils se bougent le popotin et travaillent pour l'avoir !»
Le popotin ? La foule pousse des hurrahs. Les klaxons continuent à retentir.
Le rêve américain, ce n'est pas la charité.
La foule devient carrément frénétique.
Le rêve américain, c'est remonter vos manches et tracer votre propre chemin sans les aides sociales.
Un raz de marée d'applaudissements.
Sans l'aide du gouvernement et sans les arrêtés du gouvernement.
Un groupe d'hommes passe près de Mary Pat, transportant des corps blancs et pâles sous le bras. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Jusqu'au moment où Mary Pat, regardant avec attention, constate que ce sont des poupées grandeur nature, visiblement légères comme l'air, dans les bras de ces hommes costauds. La foule les laisse passer. L'un d'eux, s'aperçoit Mary Pat, n'est autre que Terror McAuliffe, le mari de Big Peg. Il regarde droit vers elle, et ses yeux s'attardent, de son visage à ses seins, de ses seins à son visage, puis il poursuit son chemin, sans l'avoir reconnue.
Francis et moi avons 4 enfants,
dit Agnès,
dont 3 sont élèves à South High. Mais ils n'iront pas à l'école demain, parce que je ne veux pas qu'ils y aillent. South ne veut pas qu'ils y aillent. J'ai raison, oui ou non. South ne cédera pas.
Le slogan retentit d'un bout à l'autre de Broadway. South ne cédera pas. South ne cédera pas. South ne cédera pas. Agnès se recule, rayonnante. Et ses yeux se portent vers quelqu'un dans la foule, là-bas sur sa droite, à une cinquantaine de mètres de l'endroit où se tient Mary Pat. Celle-ci entrevoit brièvement des cheveux noirs et bouclés dans cette partie de la foule. Mary Pat se déplace au milieu des gens agglutinés. Toute son arrogance à propos de son déguisement lui apparaît tout à coup comme une confiance de matamor. Une fanfaronnade de piliers de bar. N'importe qui, à tout moment, pourrait se retourner, coller son nez à 2 centimètres de son profil et... quoi ? Hurler son nom. Et tout serait terminé. C'est Tom O'Rourke qui a le mégaphone à présent. Tom est également membre du comité de l'enseignement public. Mais en tant qu'orateur, il est un peu aride. Un vrai remède contre l'insomnie, ce vieux Tom. Et il a beau passer en revue les gros succès habituels, tyrannie, racisme à l'envers, bouleversement de la communauté et de la culture, tous ses auditeurs ont les paupières qui s'alourdissent, quand soudain un hurrah se propage dans la cohue. Mary Pat suit les dizaines de têtes qui se tournent et voit les hommes avec les poupées lancer des cordes pour les accrocher aux réverbères et aux mâts à drapeaux près du tribunal. Ils ne sont pas très habiles. Seule une corde reste suspendue dès la première tentative. Mais l'assistance leur apporte un tel soutien vocal que Tom O'Rourke finit par renoncer, ce qui déclenche une autre clameur de joie. Mary Pat se rapproche de l'endroit où elle a cru apercevoir Frank Toomey. Mais le soleil s'est couché à présent. Ce n'est pas encore l'obscurité totale, mais des zones d'ombre profondes et irrégulières sont tombées ça et là dans la foule. Il est devenu plus difficile de discerner les visages dans ces conditions que dans une obscurité totale où les yeux peuvent s'adapter plus facilement. Et bien sûr, ces lunettes de soleil n'arrangent rien. Quelqu'un avec des cheveux noirs passe près d'elle, mais quand il émerge de l'autre côté du couple entre elle et lui, il a une barbe et un double menton, et Mary Pat le reconnaît. C'est l'un des Clark de E Street. Elle se tourne vers la foule et elle le voit venir vers elle. Il a les yeux fixés sur les siens. Frank Toomey en personne, tout en lui, respirant la force brute et l'Old Spice, tandis qu'il se fraye un chemin à travers la cohue à coups de « Excusez-moi, excusez-moi, bourru !» qui tiennent moins de la politesse sommaire que de l'ordre impérieux. Il vient droit sur Mary Pat. Elle ne peut pas bouger. Ils sont tous trop serrés les uns contre les autres. Les gens se bousculent pour voir ce qui se passe maintenant du côté du tribunal, mais Mary Pat se rend compte trop tard qu'elle devrait être en train de plonger la main dans son sac qui est coincé à l'arrière de sa hanche droite, alors que Frankie est pratiquement sur elle, la bouche s'incurvant en un sourire cruel, tandis qu'il s'approche suffisamment pour qu'elle sente son haleine quand il lui dit « Excusez, mon chou, je veux juste passer. » Elle pivote sur la droite du mieux qu'elle peut, et voilà qu'il la frôle. Elle sent son corps massif et dur frôler le sien, assez près pour qu'elle remarque les minuscules parcelles de gris qui commencent à émailler ses favoris. Puis il n'est déjà plus là. Et juste derrière lui apparaissent, les mains enfoncées dans les poches de leur veste par cette nuit d'été, Johnny Polk et Bubsy Gould. Deux brutes qui dirigent la société South Shore Sand and Gravel et plusieurs sex shops dans Combat Zone. Avant que la trouée dans l'assistance ne se referme, elle leur emboîte le pas et reste sur leurs talons tandis que Frank, 2 pas devant eux, fend la foule comme la proue d'un navire. Elle regrette d'avoir choisi un tailleur pantalon bleu pastel. Cela lui semble être le genre de détail dont les gens se souviendront par la suite. Mais aussitôt, elle se rappelle qu'elle n'a pas d'autre but en vue. Son objectif principal n'est pas de tuer Frank Toomey puis de s'échapper. C'est de tuer Frank Toomey, point final. Ce qu'elle pourrait peut-être faire sur le champ. Sortir son arme et tirer dans le dos de ces trois ordures. Mais qui serait la véritable ordure dans ce cas? Les balles pourraient traverser leur corps. Des gens pourraient être piétinés dans la panique et la bousculade. Elle pourrait rater son coup. Non, ce n'était pas le bon endroit. La cohue se précipite en avant comme un seul homme et Mary Pat, ballottée, se retrouve involontairement tournée de nouveau vers le tribunal. Les poupées grandeur nature sont maintenant toutes pendues aux mâts et aux réverbères avec une pancarte autour du cou. Sur la première, on peut lire « Sénateur Kennedy ». Sur une autre, « Juge Garrity ». Sur une troisième, « Maire Kay White ». Et sur une quatrième, « William Taylor ». Un nom qui ne lui dit rien. Les hommes qui portaient les effigies se tiennent juste en dessous avec un briquet à la main. Tandis que la foule hurle son approbation, ils mettent le feu aux poupées. Cela prend une minute. Les flammes dansent au bord des effigies, certaines bleues, d'autres jaunes. L'une des poupées, celle de Garrity, s'éteint et ils sont obligés de la rallumer. Mais ensuite, la lueur des flammes balaie l'assistance la plus proche du tribunal. Elle baigne les gens d'une lumière rouge, jaune et bleue qui ruisselle sur leur tête et leur visage comme du liquide. Il y a dans l'air une odeur d'essence à briquet et de fureur. Les effigies se tordent au bout de leurs cordes en brûlant. La foule scande « Ça aussi ne cédera pas !» La foule scande « Aux chiottes, les nègres !» La foule scande « Tous unis !» L'espace d'un moment, la vision de Mary Pat devient télescopique et tout ce qu'elle peut voir, ce sont les visages qui surgissent. Les coups tendus à l'extrême, les bouches rouges et humides de salive, les pancartes brandies comme autant de fourches, les jambes des enfants passées par-dessus les épaules de leurs parents et plaquées sur leur poitrine. Se déplacer au cœur de cette multitude, au cœur de sa rage, est comme essayer de se glisser entre des briques fraîchement posées. Ses poumons sont douloureux, comme si elle avait fumé une demi-douzaine de cigarettes à la suite, et elle se sent prise de vertige. Juste à l'instant où elle se dit qu'elle pourrait s'évanouir, elle sort de la cohue. Elle émerge tout d'un coup au carrefour de West Broadway et East. De l'autre côté de la rue, Frank Toomey est parvenu jusqu'à une Cadillac rouge cerise avec un toit en plastique blanc. Il discute plaisamment avec Johnny Polk et Bubsy Gould. Ils grimacent de façon comique et ils éclatent de rire tous les trois. Il dit quelque chose qui fait que les deux autres inclinent la tête sur le côté. Il hoche la sienne plusieurs fois pour les convaincre qu'ils pensent ce qu'il dit. Puis, il monte dans sa Cadillac et décolle du trottoir. Il fait demi-tour et remonte sur West Broadway. C'est un véritable supplice pour Mary Pat, tandis qu'elle attend de voir ce que vont faire Johnny et Bubsy. Il semblerait qu'ils se le demandent eux-mêmes. Puis ils font un signe de tête et se rendent à un bar à trois maisons de là. Mary Pat court comme une dératée jusqu'à Bess, deux rues plus loin, saute au volant et enfonce l'accélérateur. Bess quitte sa place de parking en hoquetant. Elle prend de la vitesse, arrive à un panneau de stop. Mary Pat tend le cou, personne dans les environs, et elle brûle le stop. Elle brûle aussi le suivant et rejoint West Broadway bien lancé. À cet instant, elle n'a que des suppositions. Si Frank rentrait chez lui, il aurait pris une rue transversale parallèle à Dorchester Street pour parvenir à sa maison dans West 9th Street. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a remonté Broadway en direction du pont. Mary Pat joue le tout pour le tout, et décide qu'il va en ville, quelque part dans le centre. Si cela avait été le cas, et si quelqu'un n'avait pas mis le feu à une voiture avant de la laisser à l'intersection de Broadway et E Street, elle aurait perdu Frank Toomey pour la nuit. Mais elle parvient à cette intersection alors que les voitures commencent à rouler au pas pour contourner le véhicule en feu, et elle aperçoit le toit blanc sur la carrosserie rouge cerise à l'instant où il passe près des flammes. Est-ce que tout brûle ce soir? Et elle garde la Caddie en vue jusqu'au moment où elle la voit tourner à droite pour prendre la bretelle d'accès à la I-93. Elle est la troisième voiture derrière la Caddy quand celle-ci sort à la hauteur de North Station, puis traverse le pont pour entrer dans Charlestown. Les deux voitures devant elle s'arrêtent à City Square, alors elle joue la prudence et laisse Frank prendre de l'avance. Trop, finalement. Mais elle ne panique pas. Elle ne laisse pas la peur prendre le dessus. C'est Charlestown, ici. Même pas de kilomètres carrés et on n'y connaît pas de garage couvert. S'il reste dans ce quartier, elle le retrouvera. Et elle finit par le retrouver. Enfin, sa voiture. Elle est garée devant un salon de coiffure pour hommes dans Common Street, en face du parc Training Field. Le salon est fermé, les lumières sont éteintes. Tout autour, il n'y a que des maisons d'habitation, certaines datant de l'époque de la Révolution, mais la plupart du début du XIXe siècle. Ce sont des maisons mitoyennes, soit en briques rouges, soit en brownstone, soit à clin, sans le moindre espace entre elles. Il pourrait être dans n'importe laquelle. Ou bien dans aucune. Il a pu se garer là où il a trouvé une place, puis partir à pied et tourner au coin de la rue. Elle songe à le chercher à pied. Mais le seul endroit plus fermé que ça aussi, c'est Charlestown. Si elle se met à marcher dans le coin en regardant aux fenêtres, Frank sera mis au courant avant qu'elle ait fait la moitié de la rue. Mais il reviendra bien à la Cadillac, espère-t-elle. Elle trouve un endroit d'où elle a une vue dégagée sur sa voiture de l'autre côté du parc, le Training Field, ainsi nommé parce que c'était l'endroit où les troupes de l'Union se rassemblaient et s'entraînaient pendant la guerre de sécession. Puis, elle vérifie sa perruque et son maquillage dans le rétroviseur. Elle s'installe et se persuade qu'elle n'est pas épuisée. Elle ne se souvient pas de la dernière fois où elle a dormi d'un sommeil véritable. Même la nuit précédente au motel, elle n'a somnolé que 3 heures à tout casser. Elle se pince la cuisse aussi fort qu'elle peut. Elle se donne quelques tapes sur les joues. Elle fume cigarette sur cigarette.